Le peloton RMC.
Maxime Martinez.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le peloton RMC. C'est la fin d'un magnifique livre qu'on a vécu ensemble. Après 4 semaines de bonheur, le Tour de France 2026 a écrit sa dernière ligne dimanche soir à Nice sur la promenade des Anglais avec la victoire de Demi Vollering sur la 5e édition du Tour de France Femmes. Une édition dont vous pouvez déjà retrouver le débrief en podcast sur la page Peloton RMC. Ce livre est désormais refermé et le Peloton RMC en ouvre un nouveau, celui de la Vuelta. C'est le prochain grand rendez-vous du cyclisme mondial, départ le 22 août depuis Monaco, le lieu de résidence d'un certain Tadej Pogacar, qui l'a annoncé cette semaine. Il sera sur la ligne de départ dans la Principauté. Une annonce qui, bien entendu, fait parler dans le peloton, d'autant plus que celui qui se fait assez rare en interview est sorti du silence et a détaillé ses objectifs pour les prochains mois. Un Poggi qui part à la chasse au record, vous le verrez. Dans le peloton du jour, notre leader qui a reçu un magnifique trophée il y a 2 semaines pour célébrer sa 20e grande boucle. Bonjour Jérôme Pinault.
Salut, salut à toutes et à tous.
En direct de la plage de la Baule.
Exactement. Sur la plage.
Vue sur la mer.
Côte Loire-Atlantique, on y est très bien. Venez y faire un tour, on est au frais, on est bien.
Magnifique. Avec nous, celle qui a parcouru plus de 6900 km en un mois et demi, j'ai compté, qui a une carte grand voyageur SNCF extra gold désormais et qui, après cette émission, aura bien mérité quelques vacances. Bonjour Maria Azé.
Salut Max, salut tout le monde. Oui c'est vrai, je suis en vacances dans pas très longtemps, donc j'ai des auditeurs qui m'ont dit qu'ils m'entendaient trop, donc ne vous inquiétez pas, vous m'entendrez plus pendant un mois là.
Tic-tac avant
ça,
les vacances.
C'est des mauvais auditeurs ça.
Ouais c'est ça. Et pour finir, lui il revient de vacances, le Flandrien du peloton, bonjour Pierre Kutschett.
Salut.
De retour de vacances, t'as fait un peu de vélo?
Un peu, j'en ai regardé aussi.
T'en as regardé aussi? Eh ben, on va en regarder encore. Prenez place dans le peloton RMC. Suivez nos trous. Promis, on fera pas la cassure comme Célia Géry. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, @pelotonRMC. Si vous aimez notre podcast, abonnez-vous sur les différentes plateformes. Mais d'abord, c'est l'heure du briefing.
Le peloton RMC, le briefing de Jérôme.
Ou plutôt le débriefing de Jérôme Pinault. 0 pointé pour les Français et les Françaises. 30 étapes sans victoire et pas un maillot distinctif dans la besace des deux Tours de France, hommes et femmes confondus. Alors Jérôme, est-ce qu'on doit être inquiet?
Est-ce qu'on doit être inquiet? Certains vous diront que non, puisqu'on a eu de très très bons résultats dans les classements généraux avec Paul Sexas, avec Nenny Martinez et puis Cédrine Kerbaoul qui a sauvé la mise chez les filles. Mais moi, je dirais plutôt qu'on peut l'être malgré tout. On peut l'être, pourquoi? Parce qu'on a eu très peu d'opportunités pour gagner des étapes. Alors, on peut enlever toutes les étapes gagnées par Demi Vollering et ou par les favorites et chez les garçons par Tadej Pogacar et Isaac Del Toro. Donc déjà, ça fait un bon paquet d'étapes d'enlever. Mais il faut quand même se dire que dans les situations où il y a eu quelques ouvertures, opportunités, ben, je pense qu'on n'a pas été en capacité de gagner, notamment sur le tour féminin et sur le tour masculin. Pareil, les garçons ont été loin de cela. On a pourtant pléthore de garçons qui peuvent gagner des étapes et de filles aussi. Moi, ce qui me dérange, c'est bon, l'absence de sprinter chez les garçons, ça on le sait. Chez les filles, c'est pareil. Derrière Lorena Vibes, c'est le vide. Alors, ni française ni étrangère d'ailleurs, hein, derrière elle. Nous, on a Paul Magnier qui était à la maison. Mais c'est surtout le grand nombre de coureurs françaises, de coureuses françaises qui font le choix de rejoindre des grosses équipes ou de rester dans la grande équipe qui fait gagner le Tour de France. Regardez l'équipe FDJ Suez. Parmi celles-ci, on a des Marie Lonnette, des Vita Music, des Célia Géry, des Juliette Labousse-Berthet qui seraient leaders ailleurs et qui pourraient essayer de tenter des choses, d'aller gagner des étapes, notamment la joie, elle se suffit à faire gagner le maillot jaune à Demi Vollering. Mais ces filles-là, elles perdent du temps parce que le jour où Demi Vollering changera d'équipe, elles n'auront plus la capacité d'aller chercher des victoires parce que être leader, être capable de gagner les courses, ça s'apprend et ça se travaille année après année. Et chez les garçons, c'est un peu pareil. On a une pauvreté dans les équipes françaises et les autres, les meilleurs, se mettent parfois au service des grands leaders. On a eu de très, très bons coureurs aux côtés de Paul Sexas. Malheureusement, un Nico Prodhomme, il n'est pas dédié à gagner des étapes. Il est là pour aider son leader. On ne peut pas faire un bilan négatif de la série des Français sur ces deux tours, et des Français et des Françaises. Maintenant, on peut se dire quand même que le cyclisme français doit se réapprendre à gagner sur les grands tours. On parle souvent de ce plafond de verre que Pierre-Yves adore. Moi, je pense qu'il faut surtout se dire que ce n'est pas parce que les grands trusts, les grands classements, qu'il faut éviter les grandes courses parce que c'est un risque de régresser et de ne pas aller chercher des grandes victoires. Le Tour de France est ouvert, il reste il y a des opportunités chacun des grands tours, que ce soit chez les hommes et chez les femmes. Mais si on ne cesse d'espérer et d'aller de l'avant et de se réfugier dans un rôle d'équipier, ben on met un peu ses ambitions de côté et on n'arrivera pas à aller chercher ce genre de victoire. Alors, il reste encore énormément de belles choses à faire cette saison. Mais en tout cas, pour les grands tours et en tout cas les deux Tours de France cette année, c'est quand même raté.
Alors, rapide tour de table. Maintenant, Pierre, est-ce que toi, tu es inquiet comme Jérôme ?
Je ne suis pas inquiet, je suis déçu. Déçu parce qu'effectivement, il y avait la place pour faire des choses. On en avait parlé de Romain Grégoire juste avant le tour. Effectivement, Célia Géry, on a cru une ou deux fois que ça allait être pour elle et en fait, pas du tout.
C'était Léni vraiment... Martinez sur l'Alpe ?
Léni Martinez qui, bon, a préféré jouer la cinquième place que la victoire d'étape. Et après tout, pourquoi pas. Mais je suis plus déçu dans le sens où ça on a manqué d'audace. On a manqué d'audace et d'ambition pour un certain nombre de coureurs.
T'es d'accord, Maria ? On rappelle que la dernière victoire française, donc hommes et femmes confondus, c'est Pauline Ferrand-Prévot l'année dernière en maillot jaune.
Ouais, ça commence à dater un petit peu. Oui, je suis d'accord. Je trouve qu'on a été un peu trop timide sur certaines étapes. Il y avait vraiment mieux à faire. Hein. Pierre parlait là, de l'étape de Célia Géry. Typiquement, dans ce groupe-là, faut jamais. Bon, on pourrait parler des tactiques de course pendant longtemps, mais faut jamais laisser revenir Kim Lecourt, bien sûr, qui a clairement la meilleure pointe de vitesse dans ce groupe-là. Je pense qu'il y avait mieux à faire aussi sur l'étape remportée par Mauro Schmidt sur le Tour de France homme avec Kevin Vauclin et Jordan Jegat qui étaient dans le coup. Ils avaient les jambes ce jour-là. Il y avait mieux à faire. C'est plus des regrets. On manque parfois peut-être un peu de malice, un peu d'être un peu plus intelligent dans la manière de courir. Donc c'est pas inquiétant, c'est pas dramatique, il y a des très belles performances au classement général, mais c'est vrai que c'est un peu décevant par rapport à l'année dernière, notamment chez les filles. On passe de 4 étapes remportées l'année dernière à 0 cette année, et en plus du classement général,
ça fait une grosse chute,
ça fait quand même une grosse chute libre.
On sait pas comment en 1999 où il y avait une sorte de creux générationnel, là c'est ça sera mieux l'année prochaine sans doute. Pierre, Maria,
faut avoir les opportunités. Après, en fait, chez les filles, le problème cette année aussi, c'est que les grandes leaders, elles sont pas françaises. Dans une équipe française, Jérôme en parlait, qui est la FDJ Suez, il y a plein de françaises qui peuvent gagner des étapes. Typiquement, Juliette Berthet, Vita Music, même si elle n'était pas en forme, Célia Géry, mais la grande leader, et on l'a su dès le début du Tour de France, c'est Demi Vollering, et elles étaient dédiées à 100% pour elle. Donc, forcément, déjà, ça limite un peu les chances. Pareil pour Maëva Skiban, on a bien senti dès le début que c'était déjà la guerre chez UAE avec Lisa Longo-Borghini et Paola Blasi. Donc, autant vous dire que ça limite un petit peu les chances de victoire pour Maëva Skiban. Ça dépend des rôles qu'elles ont aussi dans les années à venir. Elles avaient peut-être des rôles un peu plus importants l'année dernière que cette année.
Allez, le tour, c'est fini. Désormais, place à la Vuelta. C'est donc officiel, Tadej Pogacar fera le Tour d'Espagne. L'annonce a été faite par son équipe UAE Team Emirates XRG lundi dernier. Un Tour d'Espagne qu'il n'a disputé qu'à une reprise, c'était en 2019, avec 3 victoires d'étape à la clé et une 3e place au général. Une participation donc avant son avènement, avant son éclosion. Pourquoi Pogacar fait la Vuelta cette année ? Maria, est-ce que tu as quelques infos là-dessus ?
Oui, bon, c'est très simple. Hein. Il veut cocher la case qui lui donnera les 3 victoires, la victoire sur les 3 grands tours. Vingegaard l'a fait avec le Giro cette année. Pogacar ne veut pas rester sans avoir gagné un seul grand tour la Vuelta dans sa carrière. Et donc, il fait la Vuelta cette année parce qu'il est sorti de ce Tour de France avec encore un petit peu de jus, parce que ça lui fait une bonne préparation pour les championnats du monde au Canada, même si on sait qu'il affectionne particulièrement les Grands Prix de Québec et Montréal, mais ça lui fera une bonne préparation pour les championnats du monde qui sont vraiment son objectif de fin de saison. Non, on est clairement sur la chasse au record. Il sait qu'il va y aller potentiellement sans trop avoir à se donner et que ça va lui permettre de cocher cette case qu'il attend.
Et donc, c'est une décision qui a été prise vraiment en dernière minute quasiment ?
Oui, bah, il voulait voir après le Tour de France comment il était, comment il se sentait l'année dernière. Il était vraiment vidé après le Tour de France, il voulait vraiment couper et surtout faire les courses les Grands Prix de Québec et Montréal. Là, cette année, c'était un petit peu différent, il était un peu plus en forme, il a moins souffert du Tour de France. Et donc après le Tour, on lui a demandé ce qu'il voulait faire. Et quand Tadej Pogacar dit qu'il veut faire la Vuelta, évidemment, on l'envoie sur la Vuelta.
Pierre ?
C'est nul. C'est nul, je suis très déçu. Non, je suis très déçu pour deux raisons. La première, c'est que, bon, oui, on a quelqu'un qui est en train d'essayer de finir le jeu. Et ça me rappelle vraiment mon adolescence où j'étais chez des copains qui passaient leur après-midi sur la console à eux essayer de finir le jeu. Et toi, tu les regardes et tu t'ennuies un peu. Et les grands tours, en plus, la Vuelta cette année, au-delà du fait que voilà, le parcours est assez excitant, moi j'étais assez content d'avoir enfin un grand tour sans Vingegaard ni Pogacar.
Parce que la concurrence face à lui, on peut le dire, c'était Félix Gall, Skelmos, Roglic, Heuptebrugs, Quintana, Landa, Carlos Rodriguez.
C'était un truc assez ouvert et avec des concurrents qui ont des caractéristiques assez différentes. Et donc un affrontement qui... Alors oui, sans Vingegaard et sans Pogacar, était un défi.
C'était le grand tour de l'année.
Voilà, ça pouvait être drôle. Là, maintenant, ça ne va pas être drôle du tout. Hein. Donc, ça flingue un peu la Vuelta, cette histoire. J'ai un Pogacar qui m'a déjà flingué la dernière semaine du tour, parce que non seulement, effectivement, il gagne, il est plus fort, mais en plus, il s'est mêlé de qui allait avoir le maillot à poids, qui allait avoir le maillot blanc. C'est quand même lui qui décide que Del Toro va avoir le maillot blanc. C'est lui qui laisse partir Carapaz et qui lui donne le maillot à poids. Super, hein, mais il y a un moment, c'est fatigant. C'est pas le truc le plus excitant qui pouvait arriver à cette Vuelta d'un point de vue purement sportif. Alors oui, il y aura du monde pour regarder parce que c'est Pogacar, mais d'un point de vue purement sportif...
Je pense que la Vuelta est très contente.
Hein, oui, j'imagine.
C'est le jackpot pour les organisateurs de la Vuelta, Unipublic, on est d'accord.
Mais d'un point de vue purement sportif, ça m'excite beaucoup moins que s'il y avait un truc avec un peu plus de suspense, peut-être un peu moins de talent, mais un peu plus de suspense.
Bon, on va le dire, il est le très grand favori de la Vuelta. Est-ce que vous voyez un scénario avec cette concurrence qu'on a évoqué où il peut être battu?
Bon, là, c'est impossible. Moi, je vois vraiment pas dans quel monde il peut être battu. On a vu son niveau sur le Tour de France, ça va être juste la continuité de son Tour de France. Voilà, il a encore les jambes. En plus, il a bien profité là pendant les semaines entre le Tour de France et la Vuelta. Ah, je pense qu'il va arriver en pleine forme. Alors après, je sais pas quelle Vuelta il va faire. Je sais pas ce que t'en penses, Pierre. Mais quel type de Vuelta il va faire? Est-ce qu'il va la faire en mode Tour de France, à vraiment vouloir tout contrôler, un peu dictature, décider de tout, qui remporte l'étape, les étapes qu'il veut remporter, il les remporte? Ou est-ce que il va vraiment s'assurer la victoire au classement général, peut-être quelques étapes mythiques, et puis après laisser un peu de spectacle, ce qui serait mieux pour nous? Je sais pas.
Alors je pense que il y a deux choses. D'abord, il fait pas une grande prépa en altitude en amont, puisque la Vuelta elle part dans 10 jours. Et que là, si on a bien suivi
son
programme...
C'est la Vuelta qui va être la prépa en altitude, en réalité.
Si on a bien suivi son programme, il était en Slovénie pour le Poggi Challenge. Et là, il était sur les routes du Tour de France Femmes pour Urska Zegart. Et donc, très bien, mais ça ne prépare pas forcément...
Il a fait le Mont Ventoux, en gravel, quand même.
Oui. mais dans le genre préparation en altitude, où tu dors à plus de 2000 mètres et compagnie, bon, ce n'est pas le cas. Et la Vuelta, tu ne dors pas non plus à plus de 2000 mètres. Donc oui, tu fais des efforts. Mais par ailleurs, j'ai regardé le parcours justement dans cette logique. Il y a énormément de transferts. C'est très bizarre, parce qu'on se fait un tour d'Andalousie. Ouais.
XXL.
Mais avec des transferts entre une étape et une autre de 200-300 km. Okay.
Et d'ailleurs, on n'arrive pas à Madrid, on arrive à Grenade.
On arrive à Grenade, c'est une très belle fin de Vuelta. Néanmoins, il y a beaucoup de transferts. Qui dit transfert dit fatigue. Et après, il y aura 10 jours entre la fin de la Vuelta
et
les mondiaux, même pas 10 jours. Donc, ça, je ne suis pas sûr que ce soit une superbe préparation pour les mondiaux, mais bon.
On va revenir sur les mondiaux dans quelques instants. On va reparler de la concurrence, parce qu'on va le dire, la concurrence n'est pas forcément ravie d'avoir Tadej Pogacar dans les pattes. Valentin Paré-Peintre était l'invité de l'intégrale Tour, c'était vendredi dernier, à l'occasion de l'étape du Mont Ventoux. Et bien entendu, on lui a posé la question de la présence de Pogacar.
Non, on s'y attendait un petit peu. Après, moi, ça. Comme j'y vais pas pour le classement général, on va dire que ça me change pas grand chose, même si je pense qu'il y aura un peu moins d'échappés qui iront au bout parce que Tadej veut aussi gagner des victoires. Donc voilà, mais c'est sûr qu'il y aura quand même des opportunités et pour moi ça va pas changer fondamentalement mon approche de la course.
Alors, ça ne change rien, mais ça change quand même quelque chose, vous l'avez compris. Est-ce que vous comprenez, Jérôme Pinault, que sa présence refroidisse quand même les concurrents à Tadej Pogacar?
C'est obligé que ça les refroidisse, puisqu'ils savent qu'il y a un certain nombre d'étapes qui seront plus atteignables pour lui. Malgré tout, je pense qu'il y a aussi quand même, de la part de Poggi, l'idée d'aller loin dans la saison quand même. Il parle du championnat du monde, il parle du championnat d'Europe, donc... Il va peut-être gérer son tour d'Espagne pour sortir, on va dire, entre guillemets, frais et peut-être pas courir après tout. Et surtout, il faut signaler que son équipe va être quand même affaiblie, hein, parce qu'il n'a pas l'équipe qu'il pensait avoir. Et surtout, certains de ses lieutenants, Jevine et Almeida notamment, ont lourdement chuté sur le Tour de Pologne et le Tour de Burgos. Donc, peut-être n'aura-t-il pas non plus l'appétit d'ogre qu'il avait ces derniers temps, et notamment sur le Tour. Maintenant, c'est sûr que pour les adversaires, bah, ce n'est pas une bonne nouvelle, et c'est certain.
Toi, tu es déçu de la présence de Poggi sur la Vuelta, Jérôme, pour le spectacle ?
Ah non, 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 moi je suis toujours ravi de voir le meilleur coureur dans les plus grandes courses. La Vuelta est une très grande course et j'aimerais pas que ce soit une course au rabais parce que les grands n'y vont pas. Si Poggi y va, c'est que c'est une grande course, il a envie de la remporter. Et pour aujourd'hui gagner un grand tour dans le cyclisme, si on veut gagner un grand cours, une grande classique, il faut battre Van Der Poel ou il faut battre Tadej Pogacar. Puis voilà. Donc ceux qui ne sont pas contents de voir les meilleurs, bah, c'est qu'ils ne sont pas au niveau pour le gagner, c'est
ce
tout.
Ce qui est décevant, c'est qu'il n'a pas d'adversité, Jérôme. C'est vraiment qu'il est tout
seul. Parce qu'il n'en a pas nulle part. Ma pauvre Maria, il n'en a nulle part, à part sur les classiques, à part sur Roubaix, à part sur les courses d'un jour où certains coureurs peuvent arriver à rivaliser avec lui. Mais c'est sûr que sur trois semaines, personne ne lui arrive à la cheville, même les plus grands, même Remco Evenepoel,
oui,
qui a été
mieux,
excellent
y a quand
sur
même
le Tour.
Il y a quand même mieux que Primoz Roglic et Félix Gall, tu m'excuseras, mais
ah oui,
on
mais
quand
sauf
même avoir
que
un petit peu plus d'adversité.
Les autres, ils coupent et ils veulent faire autre chose du programme. Tu sais, il y a beaucoup de coureurs qui l'ont évité, qui l'évitent de plus en plus. C'est aussi pour ça que je disais ça tout à l'heure. C'est une évidence que si on ne se confronte pas au meilleur, on régresse. Hein. On ne va pas progresser. Hein.
Sans Pogacar, une Vuelta au rabais, Pierre, tu es d'accord ?
Ben, ce n'est pas tant sans Pogacar, c'est sans Pogacar, sans Vingegaard, sans Evenepoel, sans Sexas, sans Del Toro, sans Ayuso. Il te manque quand même les 10 meilleurs. Enfin, il te manquait les 10 meilleurs.
En gros, dans le top 10 mondial, il n'y a que Van Aert qui sera là au départ de la Vuelta.
Et qui
mais
pas
qui ne joue pas le général.
Donc oui, et ce n'est pas tant que c'est pas avec ou sans Pogacar, c'est qu'il y a eu un effet Tour de France cette année où tout le monde a voulu aller sur le Tour pour. Parce qu'il fallait aller sur le Tour. Et que l'effet derrière, c'est que comme la Vuelta est trois semaines après, soit tu es vraiment très très fort et tu finis le Tour pas complètement entamé parce que tu as fait le tempo pour Del Toro pendant toute une semaine, soit tu es cramé. Et moi, je comprends un Paul Sexas, je comprends un Remco qui ont tout donné pendant trois semaines et qui là ont d'autres objectifs.
Et qui ne vont pas aller se refaire trois semaines de grand tour derrière. Alors, à force de courir tous les lièvres, est-ce que Maria, il peut se mettre une partie du peloton à dos Tadej Pogacar, si ce n'est pas déjà le cas ?
Non, non, bah non, 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 personne ne lui en veut parce qu'il a envie de gagner les trois grands tours dans sa carrière. Hein. Jérôme le disait, c'est le meilleur coureur du monde. Puis il est tellement respecté, j'ai envie de dire, dans le peloton que. Non, c'est plus que ça embête plus ses adversaires parce qu'ils se disent, bon, bah, y en aura moins pour nous. Et même les coureurs comme Valentin Paré-Pande qui vont jouer les échappées, bah, pour eux, c'est moins intéressant parce qu'ils savent très bien qu'il va falloir beaucoup plus batailler pour aller prendre les échappées et que ça aille au bout, que ça va être beaucoup plus difficile avec un Tadej Pogacar dans le peloton. Mais non, personne lui en veut parce qu'il veut tout gagner. Enfin, tout le monde serait dans son bain.
Mais
un
par
autre
contre,
coureur serait dans son cas.
Son comportement, on parlait tout à l'heure de comportement limite dictatorial où il a décidé tout sur la dernière semaine du Tour de France. Dans le peloton, ça commence pas un peu énervé ?
Si, il y a de la lassitude. Ça, si. Sur le Tour de France, on l'a beaucoup entendu hein, pendant trois semaines. De toute façon, c'est simple. De toute façon, quand on allait demander le matin aux équipes, par exemple aux équipes françaises ou aux autres équipes, leur stratégie pour la tactique du jour, et ils disaient, mais de toute façon, ça dépend ce que veut Pogacar. Donc oui, il y a vraiment ce côté, c'est le chef, c'est lui qui décide de tout, mais... et ça énerve certaines équipes, évidemment.
Mais moi, je suis d'accord avec toi, Maria, je suis d'accord avec vous, mais... Et on en a parlé sur le Tour de France Femmes. Mais écoutez-vous, hein, si Demi Vollering décide de tout gagner, cette année, elle gagne. Hein. Elle n'a juste pas écrasé le Tour de France parce qu'elles se sont regardées et qu'elles ont monté le Ventoux à 80% de leur capacité. Si Demi Vollering, au pied, elle fait son tempo, Kesha Nevadoma, à Nice, hier, elle est à 7 minutes, 8 minutes. Hein. Il y a une domination. Pour FDJ, qui est la même que UAE, sauf que c'est moins compliqué pour nous à comprendre ce qu'elle est, l'équipe, elle est française. Mais c'est les mêmes choses, c'est-à-dire que c'est un garçon qui domine et qui est de toute façon au-dessus. Et quand bien même, Max, tu le dis, ils se rebelleraient, ils en auraient marre, bah, ils n'y vont pas en fait. Mais ouais. Comment tu veux faire autrement et l'empêcher de tout gagner ? Il est plus fort. En vélo, on a beau essayer de mettre des tactiques et quoi que ce soit, Kashan Ebadoma, que j'aime beaucoup, elle a essayé de nous faire croire que Célia Géry l'avait serré et que c'est à cause de ça qu'elle perdait le tour. Le lendemain, quand Vollering, assis sur sa selle, baisse une dent, elle explose comme du pop-corn. Oui. Donc,
c'est et peut-être un peu pour ça qu'elle allait s'excuser aussi. Hein. Elle assumait peut-être pas trop.
Évidemment, tu vois. Veille. Donc, en vélo, encore plus qu'ailleurs, quand le garçon est plus fort, t'as beau te lier contre lui, mais ils peuvent y aller, tout le peloton contre lui, ça ne va rien changer en fait. Il est le plus fort. Donc, à partir de là, il va gagner tout ce qu'il aura envie de gagner quand il a envie de les gagner.
On parle d'équipe. L'équipe UAE a été dévoilée en même temps que la participation de Tadej Pogacar. Une équipe avec João Almeida, Jay Vine, alors, qui est tombé, donc on verra s'il sera bien présent au départ de la Vuelta, mais voilà, il était prévu initialement. Pavel Sivakov, Pablo Torres, Kevin Vermaak, Ivo Oliveira et Domen Novak. C'est du solide, Pierre, pour entourer Pogacar.
Ouais, mais enfin, c'est pas le plus solide qu'on ait vu sur l'équipe UAE. Hein. Mmh. C'est du solide, mais tu les as vus, ceux-là, sur le Tour de Burgos, ils n'étaient pas à l'arrivée. Hein. Mmh. Donc, s'ils étaient à l'arrivée, mais pas devant. donc, ok, mais c'est pas l'équipe qui va lui faire gagner le Tour. C'est lui qui va gagner le Tour, la Vuelta, pour son équipe. Et ils vont lui filer des coups de main et elle ferait plaisir à beaucoup de directeurs sportifs, cette équipe. Et quand je vois les autres équipes qui ont été annoncées, puisqu'on n'a pas des masses encore.
La start list, c'est pour l'instant.
Voilà.
Il y a beaucoup de blancs dans la start list.
Il y a un effet aussi, Pogacar, qui fait que.
On va peut-être aller à Québec, à Montréal et pas sur la Vuelta.
Peut-être. Mais en tout cas, elle est pas infamante, mais elle est pas, c'est pas la plus belle équipe UAE qu'on puisse aligner. Après, effectivement, il faut voir dans quel état sont Jay Vine et João Almeida. J'ai envie de te dire, l'équipe de Pogacar, si son but c'est de gagner la Vuelta, elle importe pas des masses. Si son but c'est gagner 20 étapes, là effectivement, tu as besoin.
Oui, tu as besoin.
Non, mais juste il y va, oui. Il y va
c'est
pas
juste
pour ça.
Gagner la Vuelta.
Il y va juste pour avoir le maillot rouge à la fin. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais.
Et si le but, c'est pas de faire le shérif pour tous les classements annexes, là effectivement, peut-être que.
Non, mais je pense que. Je ne sais pas ce que tu en penses, Pierre, mais Maria, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'il va aller sur la Vuelta pour la plier au bout de 10 jours, comme un peu a fait Vingegaard, mais en gardant, quoi. Sans tout truster, se tester peut-être une dernière fois, une semaine de la fin. Il y a encore 15 jours ensuite pour la course sur route élite au championnat du monde. Il aura grandement le temps de récupérer, mais je ne pense pas qu'il va en mettre partout et qu'il va en laisser partout. Il y va d'une part parce que je pense qu'au départ de cette Vuelta, ça part à Monaco et le prince lui va faire un beau petit cadeau, j'imagine, et qu'après, il va dérouler pour la gagner, mais sans taper dans ses réserves et aller... et gagner ce dernier tour qui lui manque. Derrière, moi, je sais pas ce que vous en pensez, je suis adversaire de Poggi pour les mondiaux. J'y vais à cette Vuelta. Parce que il n'y a rien de mieux que de faire 3 semaines dans la roue des UAE qui mettent le régulateur et le cruise control et qui roulent très vite. C'est un super stage. Et tu te relèves dans les bosses. De toute façon, tu ne vas pas lutter. Non, ce qui est triste, c'est pour ceux qui espéraient gagner une Vuelta au rabais sans sa personne et sans tous les autres. Parce que je suis désolé, mais Félix Gall, vainqueur de la Vuelta, allons chercher un peu plus loin. Ce n'est pas très vendeur. Hein, donc, heureusement qu'il y va quand même.
Alors, tu le disais, Jérôme, le départ sera donné à Monaco. Ce sera le 22 août prochain. Notez bien ça dans votre calendrier. Monaco, c'est là où vit le Slovène. Écoutez justement ce qu'en disait Urška Žigart, c'est sa compagne, hier à l'arrivée du Tour de France Femmes.
Je pense que la grande étape de la Vuelta sera sympa. Elle passera aussi par Titi, là où on habite. Et je pense que ce sera une journée vraiment spéciale. Je serai assise quelque part, un verre à la main, à encourager les coureurs et j'ai hâte d'y être.
Un Pogacar qui ne sera donc pas dépaysé, vous l'avez compris. On l'a d'ailleurs vu sur le bord de la route, on le disait tout à l'heure, en train de...
Oui, il s'est régalé sur le Tour féminin.
Avec un t-shirt. Il était installé WAG, étalé AB, c'est ça, j'ai appris ça hier.
Oui, c'est ça, c'est les maris, en gros, le mari d'Urška Žigart, quoi, le mec de Urška Žigart. Oui, il s'est régalé, il a fait une petite vidéo
pour
jouer comme un peu son rôle de copain d'Urška Žigart.
Comme ça, il le fait sur le vélo, en dehors du vélo, il s'amuse aussi. Un départ à domicile, Jérôme, est-ce que c'est un genre de détail, un départ depuis la maison, qui peut aider un coureur pour aborder un grand tour? J'ai un souvenir qui est celui de 2011 de Thomas Vauclair, le départ du Tour de France 2011, là où il a 10 jours en jaune, c'était en Vendée.
Ouais, alors après, je crois qu'on peut faire le départ de la Vuelta n'importe où. Pour lui, ça changera,
oui, ça changera pas grand chose.
Ce qui change beaucoup, c'est qu'il est, il est résident monégasque. Il n'est pas chez lui, hein, il est slovène, mais il est résident monégasque. Et donc, évidemment, on imagine que le prince a fait le forcing. Le prince est venu sur le tour. Son Altesse Sérénissime est venu sur le tour féminin. Il a fait le forcing pour avoir ses résidents. On sait que ce n'est pas simple d'aller vivre à Monaco et que sans les facilitations de son Altesse, c'est pas aussi simple que ça. Donc, ils lui doivent bien ça. Ils lui doivent bien ça, ce qui est plutôt positif pour Tadej Pogacar. Par contre, c'est évidemment de ne pas avoir à partir 5-6 jours avant de la maison pour être au départ. Il va être chez lui jusqu'au dernier moment. Ça, Pierre, tu l'as dit tout à l'heure, dans sa prépa du Tour, quand Turska a été blessé, ça a beaucoup compté. Être proche d'elle et à la maison, ça compte beaucoup pour lui. Donc c'est plus ça qui fait que c'est intéressant de son côté sportif et récupération. Après, pour le reste, il va gagner. Hein. Donc, quoi qu'il arrive, s'il lui arrive rien sur la route, il est le seul et unique favori de cette Vuelta. Et qu'elle parte de chez lui ou du sud de l'Espagne, ça ne va pas changer grand-chose au résultat.
Il n'y a donc pas que la Vuelta dans le viseur de Pogacar. Il a donné une interview en milieu de semaine, en marge du fameux Poggi Challenge dont on parlait tout à l'heure en Slovénie, sur son programme des mois et des années à venir même. Après la Vuelta, on l'a dit, il fera les Mondiaux au Canada, puis les Championnats d'Europe qui seront à domicile pour lui en Slovénie, et sans doute le Lombardie. Pour le début de la saison prochaine, une présence incertaine à San Remo et son objectif principal de la saison sera donc Paris-Roubaix, seul monument qui manque à son actif. Et puis le Tour et les Mondiaux en France, en Haute-Savoie. Pour vous, c'est un programme cohérent? On est encore dans cette course au record, Pierre?
Oui, oui. Je pense que sa dernière année, il fera que le Tour du Guangxi. Hein. Ce sera la seule course World Tour qu'il n'aura pas gagnée. Oui, c'est cohérent dans cette logique-là. Et effectivement, San Remo... Bravo à lui l'année dernière, mais c'est sûr que maintenant, c'est plus. Je comprends que ce soit plus un objectif.
La Cipressa, le Poggio, je pense qu'il ne peut plus les voir en peinture.
Donc voilà. Et après, Roubaix, bien sûr. Le Tour, OK. Les Mondiaux, en fait, ça me paraît assez clair, en fait, ce qu'il veut faire.
Cocher toutes les cases, Maria.
Oui, elle est jusqu'au JO en 2028, je pense. Peut-être qu'il terminera sa carrière là-bas. Hein. C'est ce qui lui manque. La médaille d'or aux Jeux Olympiques, ça, il la veut absolument. Donc, les JO 2028, c'est sûr qu'il les fera. La course la plus excitante l'année prochaine, ce sera Paris-Roubaix. Hein, on ne va pas se mentir.
Après, moi, ce qui m'interpelle, c'est le Tour de France et combien il va en gagner. Est-ce que... En fait,
je ne suis pas sûr qu'il veuille en gagner énormément. Hein. Je ne suis pas sûr. Hein. Pour moi, il va en gagner, allez quoi, 6 max, 6,
ouais,
7 max, 7 max.
Je pense qu'il vise les 7 de l'Armstrong, en fait.
Mm. Ouais, c'est ça.
S'il va à la fin de son contrat, il peut en gagner 9, hein, parce qu'il a 2030 en contrat. Donc, il peut aller, tant qu'il fera du vélo, il ira sur le tour pour le gagner. Il ne le gagnera peut-être pas à chaque fois, hein, parce que ses adversaires ont progressé, sa motivation sera peut-être moindre. Il va peut-être se pencher sur autre chose. La vie de famille semble importante pour lui, donc il suffit qu'il y ait un ou deux beaux et heureux événements dans sa vie, peut changer un coureur. Certains, ça les booste, d'autres, ça leur donne un peu moins envie de partir. Donc il y a des choses comme celle-ci. Jusqu'à LA, il va être au taquet. Je pense qu'il veut aller en plus à Los Angeles avec sa compagne pour essayer de conquérir un titre et vivre des Jeux Olympiques ensemble. Après 28, ça va être la grosse interrogation. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, s'il va au bout de son contrat, il aura encore deux possibilités de gagner deux tours de plus. Rien ne dit qu'il gagnera les deux prochains non plus. Donc, il reste encore un peu de suspense. Attention, le vélo, ça va vite dans un sens comme dans un autre. Il suffit d'un hiver où il se passe des choses... Et tout part à volo. Donc, il faut juste enchaîner les années où il ne se passe rien, comme en ce moment pour lui.
Justement, LA, objectif en tête pour Tadej Pogacar, qu'on écoute.
Les Jeux Olympiques sont évidemment une autre compétition que j'aimerais gagner, mais c'est tous les 4 ans. Je dois donc optimiser mon programme, courir toute l'année pour être au top de ma forme à ce moment-là. Ce n'est pas facile à intégrer dans le programme, ce n'est pas vraiment dans l'intérêt de mon équipe, mais c'est ce que je souhaite, et je pense que l'équipe en tiendra compte, bien sûr.
Eh bien oui, parce que les Jeux Olympiques de Los Angeles vont commencer seulement 5 jours après l'arrivée du Tour de France 2028. L'équipe UAE va peut-être être un peu réticente, non Pierre?
Oui, sans doute. D'autant qu'il ne va pas aller courir avec un maillot UAE. Après, on a vu aussi que dans l'équipe UAE, Tadej Pogacar faisait quand même pas mal ce qu'il voulait. et qu'à un moment ou à un autre, ça allait être dans l'intérêt de son équipe qui dispute ses JO pour les gagner. Je ne crois pas que quand il n'a pas fait les JO de Paris, c'était pour se plier à une demande de UAE.
Il y avait une sorte aussi de conflit avec la fédération.
Avec la fédération slovène, donc ça a l'air d'être à peu près réglé. Je crois que l'impétrant qui n'avait pas sélectionné Oscar Zigal s'est fait virer. Oui, ça ne rend sans doute pas son équipe, mais à un moment, son équipe peut aussi faire la part des choses sur... je pense que ça l'arrange bien d'avoir eu Pogacar pendant 10 ans.
Là, on parlait de 2028.
Le problème pour les Jeux, c'est surtout le temps de récupération entre la fin du tour et le début de la compétition là-bas, avec le décalage horaire qui va avec et le voyage. Surtout ça, les 5 jours. Ce n'est pas tellement la concurrence, c'est tellement le programme de Poggi. C'est est-ce qu'il faut, pour être très très fort au jeu, finir le tour ? C'est là la question qui va se poser.
Et voir comment il le finit. Après, là, on fait
exactement.
Vraiment
c'est du vélo-fiction, mais on parle de 28 déjà.
Je ne sais pas où il en sera. Et effectivement, peut-être que dans ce cas-là, il ne fera pas une dernière semaine fond à fond.
On parlait donc de 2028. Il y a quelques mois, années, l'année dernière, par exemple, à la fin du Tour de France, on se posait la question, on voyait que Pogacar, mentalement, sur 3 semaines, ça devenait un peu compliqué. On se posait la question de savoir, après Los Angeles... il fera quoi, Pogacar ? Il arrête ? Maria ?
C'est dur à dire. Ça dépend dans quelle forme il sera. Ça dépend de plein de choses. Hein. Ça dépend où il en est dans son cahier de victoire. Ça dépend s'il a encore la motivation de faire des grands tours. Jérôme le disait tout à l'heure, sa situation familiale aussi, évidemment, ça peut jouer. C'est hyper dur à dire, hein. on verra dans 2 ans, hein. Mais ça va être long encore déjà, 2 ans, ça fait beaucoup de choses à gagner, ça fait beaucoup de grands tours pour lui, c'est pas un passionné de grands tours, hein. Les courses de 3 semaines, il préfère limite les classiques, mais après on sait qu'il a envie de faire plein de choses, hein. Il aimerait bien se remettre au cyclocross, on pourrait le voir au gravel, je sais pas, il peut faire plein de choses, Tadej Pogacar.
Bon, on a à peu près fait le tour sur la question de Pogacar.
On a peut-être oublié juste un détail sur les 2 années de contrat qui reste,
ouais.
C'est va-t-il se mettre de côté et s'asseoir sur environ 40 millions d'euros ? Je ne suis pas sûr qu'il en ait envie. Parce que c'est à peu près ça, son année, entre ses contrats plus les contrats annexes de compétition et les contrats partenaires, c'est à peu près 20 millions d'euros par an. Donc de 28 et 29 et 30, ça fait 40 millions.
Oui, c'est un beau petit pactole.
Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens sur Terre à qui on vous dit, il faut que tu refasses 2 ans de vélo à 20 patates. Oh non, j'arrête, j'en ai assez. Je crois pas. Je crois
faire
pas.
Gagner donc, un tour de France à Del Toro, par
peut-être,
exemple.
Peut-être dans un autre style. Peut-être, comme le dit Marien, en faisant peut-être un peu plus autre chose. Mais je vois pas un garçon, quel que soit le pays d'origine, s'asseoir sur 40 millions d'euros. Je n'y crois pas.
Bon, on en a à peu près fini sur Pogacar, mais on va encore parler de Tadej Pogacar. C'est l'heure du sprint final.
Le sprint final du peloton RMC.
Alors attention, aujourd'hui, quiz 100% Poggi. C'est chacun pour soi, il y a 8 questions, mais attention, 73 points à distribuer. Donc sachez-le, rien ne sera jamais perdu. Vous êtes prêts ?
Good news.
Première question. Tadej Pogacar va donc faire la Vuelta. Sa dernière et seule participation remonte à 2019. Il y avait gagné 3 étapes. Citez-moi les 3 arrivées où Pogacar s'est imposé. 1 point pour chaque arrivée donnée. Oh là là.
J'en ai
Altone Navacerrada, non ?
Tu peux répéter, Jérôme ?
L'Alto de Navacerrada, non ?
Non.
Ça fait pas partie des victoires, ça ?
Non, non.
J'en ai strictement aucune idée.
Tentez, hein ?
Non. Allô, Grognès ?
Bon. Je vous donne les réponses. Il y a le Corstal d'Encamp, Los Machucos et la Plataforma de Gredos.
Voilà, nickel.
C'était compliqué. Allez, toujours sur la Vuelta 2019. Pogacar fait 3e derrière Roglic et Valverde. À combien de temps du maillot rouge Pogacar termine-t-il ? Le plus proche gagne 1 point.
6 minutes.
4 minutes 52.
3 minutes.
Maria, c'est 2 minutes 38. 1 point pour Maria.
4,52. Je croyais que tu l'avais tellement cette petite.
Allez, enchère maintenant. Vous me donnez le nombre de réponses que vous pouvez donner. Si vous avez tout bon, vous gagnez ce nombre de points. Sinon, on divise par 2 et on donne à chacun de vos adversaires. La Vuelta fait partie des courses que Pogacar n'a donc jamais gagnées. Citez-moi le plus de courses World Tour que Pogacar n'a pas gagné.
Tour du Guangxi.
Non, il faut me donner un nombre, Pierre. Combien tu peux en citer?
Je peux en citer deux sur.
Deux. Jérôme?
Trois.
Trois.
Ah non, trois, ouais.
Maria?
Non, je laisse Jérôme à trois, moi.
Il y a 21 réponses possibles.
Hein?
Oui.
Hein?
De course World Tour. Oui, le World Tour, c'est grand, hein.
Ah.
Allez, Jérôme, vas-y.
Alors, le Tour de Guangxi.
Oui, un point.
Le Down Under.
Le Down Under, deux points. Et Paris-Roubaix, trois points. Il y en a plein. Cadel Evans, Great Ocean Race. Ouais. Le Etneusblad, ouais. Bruges La Panne, le E3, Gent-Wevelgem, à travers les Flandres. Le Tour de Pologne, la Vuelta. La Bretagne Classique. Classique de Hambourg, Tour du Benelux, Grand Prix de Québec. Et on pouvait même rajouter des courses qui ont disparu, genre le Tour de Turquie et la Ride London Survey Classic, par exemple. Ça fait 3 points pour Jérôme Pinault. Pogacar gagne souvent, perd rarement, abandonne encore plus rarement. Le dernier abandon de Tadej Pogacar, c'était quand?
Liège-Bastogne-Liège.
Bonne réponse de Pierre Cotchet. Ouais. La saison 2026 de Pogacar est incroyable. Alors, à tour de rôle, je vais vous interroger et vous allez me citer toutes les victoires de Pogacar cette saison, étape incluse.
Wow.
J'accepte une victoire d'étape avec le lieu d'arrivée ou le numéro de l'étape. Ok ?
Ok.
Le dernier survivant remporte 3 points. Et on commence par la personne qui est en tête, c'est Jérôme.
Faut que je te donne ce qu'il a gagné.
Une victoire,
en...
ouais.
Que les victoires en World Tour ?
Ouais.
Bon, allez, Strade Bianche.
Un point pour Jérôme. Enfin, Jérôme, c'est bon. Pierre.
1900 MO.
C'est bon. Maria.
Moi, le tour des Flandres.
C'est bon. Jérôme.
Le Tour de France.
C'est bon.
Liège-Bastogne-Liège.
C'est bon. Maria.
Le Tour de Suisse.
C'est bon. Jérôme.
La dernière étape du Tour de Suisse.
C'est la combientième?
Septième cette année, non? Sixième?
Non, c'est pas bon.
Ah ouais, Jérôme, là, mais là c'est chaud là.
Cinquième. Il y a que cinq étapes. Pierre.
Tour de Romandie.
Tour de Romandie, c'est bon. Maria.
Le contre-la-montre du Tour de Suisse.
Ah ouais, c'est quelle étape?
C'est quelle étape?
La quatrième.
C'est bon. Pierre.
Juste devant Mathieu Van Der Poel, je m'en rappelle.
C'est moi. La dernière étape du Tour de Romandie.
Et c'est la combien? Ah oui.
Sixième.
Sixième? Non, c'est la cinquième.
Ah. Bah non, je l'ai dit, ouais.
Non, t'as dit Suisse.
T'as dit Suisse, oui.
Ah oui, Romandie aussi. Ouais. Maintenant, Suisse et Romandie, c'est les mêmes courses.
Maria, tu me donnes une victoire et t'as gagné. 3 points.
Une victoire d'étape sur le Tour de France, ça marche?
Ah oui.
Ok, bah l'Alpe d'Huez.
Bah c'est bon. Ça fait 3 points pour Maria.
Ah ouais.
Quel est le pire classement de Tadej Pogacar cette année, étape et générale compris? Le plus proche gagne un point et un point de plus si vous me citez la course où ça a eu lieu.
Étape ou générale compris?
Ouais. La pire place.
Faut tomber pile poil, quoi.
Non, le plus proche gagne.
Ah, 86e.
86 pour Jérôme. Pierre.
75.
Maria.
Ouais, un peu moins, 65.
65, et ben Maria, c'est bon. C'était la 56e place. Est-ce que vous savez sur quelle course?
Sur l'étape du Tour au sprint?
Ouais, une étape du Tour au sprint, tout à fait, Jérôme. 7e étape du Tour de France. Arrivé à Bordeaux.
Ouais, ouais.
Hop. 7e question. Combien de jours en carrière Tadej Pogacar a-t-il porté un maillot distinctif sur un grand tour?
Wow.
Le plus proche gagne un point.
Tu peux répéter la question?
Combien de jours en maillot distinctif de leader du classement général sur un grand tour? Leader du classement général. On compte pas le maillot blanc, on compte pas le maillot vert, que maillot jaune, rose, rouge.
Qui est-ce qui commence?
Pierre, qui a l'air de réfléchir. Je l'ai sous le coude. C'est pour ça.
45.
45 pour Pierre. Jérôme.
Je dirais 60 jours.
60 jours. Maria.
C'est dur. Je vais dire 70 jours.
70 jours. C'est encore Maria qui a bon. C'est 91 jours. Il y a 71 jours en jaune et 20 jours en rose. Et zéro en rouge, puisqu'il n'a jamais porté le maillot rouge de leader de la Vuelta. Dernière question. Je vais encore vous interroger successivement. Citez-moi toutes les victoires au sommet en grand tour de Tadej Pogacar depuis son arrivée en World Tour en 2019.
Au sommet ?
Au sommet.
Mais on te dit le...
Vous me donnez une arrivée au sommet. Et puis le premier. Et puis après, si vous vous trompez, vous êtes éliminé. Sinon, ça continue. Il y a 25 bonnes réponses possibles.
Allez.
Ok.
Si vous me donnez une bonne réponse, c'est un point. À chaque fois. Pierre.
T'as dit quoi ? Los Muchachos, là. Tu t'avais
oui.
donné un...
C'est bon. Los Machucos. Je te l'accepte. Maria.
L'Alpe d'Huez.
L'Alpe d'Huez, c'est bon.
Le plateau de Bay.
Plateau de Bay, c'est bon. Pierre.
Ah, Planche des Belles-Filles.
Planche des Belles-Filles, c'est bon.
Le Markstein.
Le Markstein, c'est bon. Il l'a même gagné deux fois. Jérôme.
Péragude.
Péragude, c'est bon. Pierre.
Je cherche des arrivées au sommet.
Trois.
Okay. Il a les doigts qui bougent. Très déstabilisant.
Ah. Donne-moi une réponse tout de suite, sinon t'abandonnes. Maria.
Le Lioran.
Le Lioran, c'est bon.
Bah, il a gagné aussi aux angles.
Aux angles, c'est bon, Jérôme. Maria.
Le Grand Colombier.
Le Grand Colombier. Oui, c'est bon. Jérôme.
Où est-ce qu'il peut avoir gagné ? Ah si, à Volta, Algarve, à Malao. Non, il n'a pas gagné là-haut, Malto de Malao, là.
Sur, en grand tour, Jérôme.
Ah ouais, non, en grand tour, c'est mort. Ça, c'est le tour d'Algarve.
3, 2...
Luzardiden.
Hein ? Oui, Luzardiden. Oh, oh, sur le fil. Maria.
L'année dernière, Otakam.
Otakam, c'est bon. Jérôme.
Pas gagné au Tourmalet, ce qu'on ne fera pas. Les deux Alpes.
Les deux Alpes. Non, c'est pas bon, Jérôme. Maria, une dernière pour la route.
Cette année, je réfléchis. Bah, si, ou l'année dernière, Mur de Bretagne, ça compte comme une arrivée
au sommet. Mur de Bretagne, c'est une arrivée au sommet, oui.
Ah ouais, d'accord.
C'est bon. Victoire de Maria Azech.
Quel scandale.
C'est Mur de Bretagne.
J'ai rien à dire, mais ouais, quel scandale.
Fallait que ce soit le Mur de Bretagne.
On
hein,
est
venu
parce qu'on n'a pas cité une pour au Giro d'Italia.
Ah oui, non, il y avait le Santuario
Déjà, moi, j'ai fait toute la liste des...
Il y avait Prati di Tivo, il y avait Livigno, le Monte Panas à la Rissoulan, le Pladadet, Isola 2000, le col de la Couillole, le col du Portet et même la super planche des Belles-Filles. C'était le peloton RMC. Allez. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci Pierre Kechette. Merci Jérôme Pinault.
Merci à toi.
Merci
à vous.
Maria Azé et bonnes vacances, Maria.
Merci.
Merci à Kylian Vérov à la production, Kevin Pogam à la réalisation. La semaine prochaine, c'est le boss Georges Quirigno qui est de retour pour un nouveau numéro du peloton RMC. À très vite.
Le peloton RMC